C'était bien sympa, ça. Mais on va être obligé de prendre l'antenne en direct. C'est le direct qui se poursuit sur l'antenne de Graphite. Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Le direct qui se poursuit après Enrique, qui chante très fort dans le studio, en fait. Vous ne vous en rendez absolument pas compte. Je viens de perdre au moins 3 dixièmes au niveau de mes tympans, il me semble. Mais il y a une superbe énergie au sein de VibraSOS juste avant Biotine. C'est très bien parce qu'avec Biotine, en fait, nous, on va se poser et on va regarder un petit peu le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il faut dire quand même que l'actualité, c'est plutôt du côté de la porte de Versailles en ce moment, avec ce démarrage très, très mouvementé du salon de l'agriculture. J'étais en train de suivre un petit peu les infos juste avant de prendre l'antenne et je suivais tout simplement le fil de France Info qui nous annonçait enfin l'ouverture du pavillon 1. Le pavillon 1, c'est l'un des plus importants du salon de l'agriculture. Le public attendait depuis 2h30 dehors parce que il y avait quand même des tensions entre les forces de l'ordre et certains représentants de confédérations agricoles. Et puis, ça chauffe encore et c'est bien que ça a refermé une minute avant que je prenne l'antenne sur l'antenne de Graphite. C'est assez compliqué. Pourquoi je parle du salon de l'agriculture, c'est tout simplement parce que en venant sur Compiègne là et en écoutant d'une oreille distraite VibraSOS qui m'accompagne sur la route et ce qui me permet d'avoir une conduite assez dangereuse, hein, Enrique, parce que je t'accompagne aussi avec ces musiques très entraînantes, donc j'essaye de faire attention. Je me disais tout simplement que j'ai pas eu le temps finalement, parce que je n'y ai pas pensé, je vous le dis sincèrement, penser à préparer une émission spéciale agriculture, parce que certes, il y a bien sûr au niveau agriculture des problèmes qui sont des problèmes d'ordre tout simplement économique, bien évidemment, mais aussi une vraie question sur le devenir de l'agriculture. Et on voit très bien que ces dernières années, et on en parle dans cette émission assez régulièrement, on assiste à des grandes transitions au sein de nos sociétés, au sein du monde, des transitions d'ordre climatique, bien évidemment, on en parle toutes les semaines, transitions d'ordre énergétique, on en parle aussi régulièrement dans cette émission. Et l'agriculture, elle, est en train de subir, et en train d'insister également à une certaine transition. Et c'est pas uniquement d'ordre purement économique, mais ça va être aussi des vraies questions de société, des questions qui nous concernent tous, qui est que voulons-nous faire de notre agriculture ? Et je ne parle pas que de l'agriculture française, je pense qu'il faut avoir une vision plutôt maintenant assez mondiale sur ces cas-là. Et comme nous sommes dans une émission de science, on voit très bien que pour la transition climatique, la science est en train apportera des solutions. On voit très bien qu'au niveau énergétique, la science est en train et apportera des solutions. Et il n'y a pas de raison que la science apporte également, je dirais pas des solutions, mais en tout cas peut-être des pistes à poursuivre pour essayer de modifier, en tout cas d'accompagner cette transition du monde agricole. La science peut apporter des solutions sur la protection des cultures, sur la gestion des ressources, le sol, l'eau. Ça peut également apporter des solutions en termes de mécanisation, en termes de sécurité alimentaire. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui concernent l'aspect purement scientifique et technique, et qu'effectivement dans cette émission, on pourrait avoir la place. Donc j'ai pas du tout anticipé ce sujet-là, et je m'en suis rendu compte quand j'écoutais dans ma voiture que voilà, le salon d'agriculture démarrait d'une façon assez tendue. On essaiera peut-être de suivre un petit peu l'actualité du salon de l'agriculture dans cette émission de Biotine. Voilà, vous écoutez donc Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 24 février. Au niveau de l'éphéméride, 24 février, il n'y a pas eu d'énormément de choses d'un point de vue science et technique. En 1896, le français Henri Becquerel découvre que la radioactivité a des conséquences. Tiens, je vous parlais de transition énergétique. Et en 1982, le 24 février, c'était la naissance du premier bébé éprouvette français. Elle s'appelle Amandine, elle a donc 42 ans. Amandine, si tu Pardon. Amandine, si tu nous écoutes, je te souhaite un bon anniversaire. Amandine, donc premier bébé éprouvette français, mais qui, elle, a donné une naissance à une petite fille qui s'appelle Ava, de manière totalement naturelle. C'était en 2013. Donc voilà, bon anniversaire, Amandine. Naissance le 24 février 1663. Oula, il y a déjà longtemps ça. De Thomas Newcomen, pasteur et mécanicien anglais. Oui, on touche un petit peu à tout dans ces cas-là. Il est l'inventeur de la première machine à vapeur. Nous sommes donc au 17e, début du 18e siècle. Décès, oh là là, je vais y arriver, un 24 février 1815 de Robert, je dirais Fulton peut-être, ou Fulton, je ne sais pas si on le prononce à l'américaine ou pas, étant donné qu'il est américain, ingénieur, peintre, sous-marinier, et donc inventeur américain, Robert Fulton, considéré comme le créateur, lui, du bateau à vapeur. Il fut en fait celui qui, par son talent d'ingénieur, parvient à rendre réellement opérationnel un procédé qui était déjà connu. Ce même talent d'ingénieur l'a conduit à réalisé en tenant compte de l'invention de David Bushnell, du premier sous-marin militaire ayant montré sa capacité à détruire. Il est donc décédé un 24 février 1815, c'est Robert Fulton. Fulton, j'en sais rien, je ne trancherai pas aujourd'hui, on va dire Fulton. 06 95 065 026 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir bien sûr en direct exclusivement par SMS. L'actualité cette semaine nous emmène encore, j'allais dire, dans l'espace. C'est assez souvent qu'on parle d'espace dans cette émission et il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas encore aujourd'hui parce que c'était assez c'est un événement, ça a eu lieu d'ailleurs hier, donc c'est vraiment tout récent, c'est vraiment de l'actualité, ce sont les États-Unis qui ne s'étaient pas posés sur la Lune depuis 1972, il y a 52 ans qu'ils n'étaient pas retournés, à l'époque c'était la mission Apollo 17. Eh bien, l'atterrisseur Novacé d'Intuitive Machines, cet atterrisseur nommé Odysseus, est le premier à revenir sur le sol lunaire pour le compte de la NASA. Son alunissage suit une tentative malheureuse de Peregrine de la société Astrobotique et aussi à un alunissage un peu acrobatique de la sonde japonaise Slim qui avait fini la tête en bas. C'est quand même un petit peu dommage de faire tout ce trajet pour finir la tête en bas sur la Lune. Et donc, mission réussie pour la NASA. Mission réussie, mais assez périlleuse quand même, parce que Odysseus, ok, a décollé avec succès, c'était le 15 janvier, c'était avec notamment SpaceX qui a participé justement au lancement de cette sonde, je vais y arriver, et on a pu directement injecter cette sonde en orbite translunaire, c'est-à-dire en trajectoire vers la Lune, et pendant les premières heures de ce voyage, les ingénieurs ont dû résoudre un petit problème d'un système de contrôle d'attitude et d'orbite pour essayer ensuite de retrouver un guidage normal. Et donc, à part ce petit couac au début, le voyage vers la Lune s'est déroulé sans encombre, mais pas sans péripéties, parce que la mise en marche du moteur principal a été décalée. Alors, on avait un petit peu une marge en termes de timing, donc on a pu, avec cette flexibilité du planning, pouvoir compenser ce petit délai, ces petites péripéties. Le 21 février, la sonde se met donc en orbite lunaire et peu après, eh bien, la société Intuitive Machines publie des images de la Lune prises lors d'un survol. Et pour donner plus de temps pour faire des corrections d'orbite et pour préparer la descente, eh bien, l'heure de l'alunissage a été plusieurs fois modifiée, plusieurs fois décalée. La cause de ce report, elle est annoncée pendant un direct qui avait été lancé par la NASA. Et on s'est rendu compte, en fait, que les télémètres laser de guidage de la descente ne marchent plus. Qu'est-ce que l'on fait ? On va essayer de trouver une solution. On va utiliser un instrument qui utilise ces lasers pour déterminer diverses distances et pouvoir estimer la vitesse, c'est-à-dire que sur l'instant, on va essayer de parer à cette difficulté en essayant quelque part d'utiliser un instrument qui n'est pas fait pour ça, mais qu'on va utiliser pour pouvoir amorcer la descente, la l'alunissage en clair. Et on a dû, au dernier moment, à la dernière minute, faire une correction du logiciel à distance pour pouvoir assurer cette descente. Un peu plus de 12 minutes avant l'alunissage, eh bien, Odysseus a enfin pu allumer son moteur principal. C'est un moteur qui a été développé par impression 3D, en trois dimensions, c'est ce qu'on nous dit. Et ça a permis, en allumant ce moteur, de réduire la vitesse de plus de 6500 km/h. Donc, effectivement, c'était important que ce moteur s'allume. L'atterrisseur est penché, il a les jambes en bas pour que la caméra de navigation puisse reconnaître le terrain, pouvoir le comparer par rapport à des cartes et des photos qui existaient, et ça de façon totalement automatique, de façon autonome, avant de pouvoir achever la descente de façon verticale. Et enfin, l'alunissage a eu lieu, et donc c'était hier, alors dans la nuit plutôt de jeudi à vendredi hors de Paris, hein, c'était à minuit 24 précisément, et peut-être que vous l'avez appris hier matin quand vous avez lu un petit peu les journaux ou écouté les informations. Oui, alunissage et retour des Américains, en tout cas d'une sonde américaine sur le sol de la Lune depuis 52 ans. Il a fallu quelques longues minutes pour que le directeur de vol de la société Intuitive Machines confirme que la sonde fonctionne à la surface, en dépit de quelques difficultés de communication avec elle. Ils n'ont quand même pas été gâtés, mais finalement, ça s'est bien passé. Et c'est donc le premier lander commercial de l'histoire à réussir à se poser sur la Lune, enfin, après les échecs donc, qui ont eu lieu en janvier et en 2003 des autres sociétés qu'on a évoquées tout à l'heure. Odysseus, c'est la seconde mission d'un programme beaucoup plus général de la NASA qui fait appel à des entreprises privée pour explorer la Lune en marge du programme Artemis. Donc le programme Artemis, on en parle depuis un certain temps. L'idée, enfin, de toute façon, de ce genre d'exploration, de ce genre d'aventure, c'est tout simplement de pouvoir recueillir des informations en vue de préparer les missions habitées sur la Lune. Je rappelle qu'on envisage de retourner sur la Lune et d'y habiter, enfin, en tout cas de s'installer, peut-être pas définitivement, mais en tout cas de pouvoir s'installer sur la Lune. Et on ne va pas s'installer comme ça sans avoir des informations. D'où l'idée d'envoyer cette sonde pour recueillir des informations sur place. C'est donc réussi, bravo, après plus donc de 50 ans d'absence, les Américains retournent sur la Lune. Je trouve que cette information, elle est quand même assez lourde de sens, parce que du coup, on a encore la tête vers la Lune, alors que l'on pensait pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, que la Lune maintenant n'était plus attractive, on va dire. Eh bien si, on y retourne et ça avance très vite. Je vous dis très souvent dans cette émission que cette décennie des années 2020 va être une décennie vraiment essentielle concernant ce qu'on va appeler la conquête spatiale, parce qu'il y a plein de missions qui sont en cours, bien évidemment. Et là, c'était une étape attendue et très importante, qui a donc eu lieu hier matin. Voilà, on va écouter un petit titre sur l'antenne de Graphite, il est 12h15. Si vous souhaitez réagir par SMS, n'hésitez pas, 06 95 065 026. 06 95 065 026. On écoute Exxon Valdez sur Exxon Valdez, c'est original ça comme titre de groupe, sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Torino sur le toit de l'usine, tout en haut du Lingotto Building. L'avant-garde monte la garde. Là sur le circuit automobile, vu sur le stade olympique. gêne. Quand Torino surgit du brouillard, que ses rues se dessinent dans le noir, une belle histoire qui finit mal. C'est pas le monde qui me frappe, alors c'est quoi? C'est pas l'attente qui me fait mal, est-ce que c'est toi? Mais je veux pas m'en aller, je vois pas pourquoi.
Torino, c'était Exxon Valdez sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et les mardis pour la rediffusion à 10h sur l'antenne de Graphite. Biotine, l'émission d'actualité scientifique. On a parlé du retour des Américains sur la Lune et l'espace est quand même encore un petit peu au cœur de l'actualité, pas toujours d'une façon rassurante, on va dire. Si on se souvient du film GoldenEye, ce film, comment dire, de la série James Bond, je vais y arriver, il y avait dans ce film un satellite de l'époque soviétique, hein, nous sommes dans les années, c'est avec Pierce Brosnan, on est dans les années 90, je crois, GoldenEye, dans cette époque-là, et on a donc ce satellite de l'époque soviétique qui est détourné pour exploiter son arme à impulsion électromagnétique, et l'idée c'est d'engendrer une crise financière internationale. Bien sûr, c'est de la fiction, bien sûr, c'est un film, et bien sûr, James Bond, il a, lui, réussi à neutraliser cette menace. Mais la réalité pourrait-elle encore une fois dépasser la fiction, étant donné, bien sûr, le niveau de tension internationale entre la Russie et l'Occident? Bien sûr, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'était il y a 2 ans exactement, le 24 février 2022. C'est une vraie question, c'est en tout cas ce que suggère le républicain Mike Turner, président de la Commission permanente sur le renseignement de la Chambre des représentants aux États-Unis. D'après ses sources issues des services de renseignement américains, la Russie serait en train de développer une arme nucléaire pour détruire des satellites dans l'espace. Il s'agirait bien sûr d'une grave menace, mais pour laquelle il n'y aurait pas d'urgence, selon les informations de l'agence Reuters, qui explique que les États-Unis auraient même fait part de cette inquiétude auprès de leurs partenaires américains, parce que on considère que la préparation d'une arme nucléaire serait assez surprenante. De l'armement conventionnel tiré depuis le sol, ça pourrait largement suffire pour neutraliser des satellites ennemis. C'est ce que d'ailleurs avait fait la Russie, c'était il y a à peu près 3 ans, en 2021, pour détruire l'un de ses vieux satellites. Une opération qui avait d'ailleurs mis en danger la station spatiale internationale en raison d'un nuage de débris qui avait résulté de cette neutralisation et de cette destruction de vieux satellites. Et donc, autant dire que les dommages collatéraux pour ses propres satellites et ceux de ses alliés pourraient être contre-productifs pour la Russie, si bien que on est un peu circonspect par rapport à cette information. Il n'empêche que, quand on revient au film GoldenEye, il est plus probable qu'un armement électromagnétique, lui, ce qu'il y avait dans le film au départ, eh bien, ce soit largement plus efficace, à moins que la Russie compte déployer de l'armement nucléaire à destination de cibles terrestres pour renforcer sa dissuasion. Ce cas de figure reste discutable puisqu'il viendrait bien sûr violer un traité sur l'espace datant de 1967 qui interdit tout objet transportant des armes de destruction massive en orbite, donc notamment des armes nucléaires, je vais y arriver. Mais on sait que depuis un certain temps, on a bien compris que la Russie pouvait passer outre le respect du droit international pour tenter d'atteindre ses objectifs. Et donc, le Kremlin affirme de son côté que les allégations ne sont que des ruses et des mensonges de la part des États-Unis. Donc on est dans une bataille de communication, bien évidemment. Mais voilà, c'est une vraie question qui se pose au niveau de cette arme nucléaire ou, pourquoi pas, plutôt une arme à impulsion électromagnétique qui pourrait être mise en place et installée par la Russie. C'est des vraies questions et c'est, voilà, on se pose... Enfin bon, c'est assez tendu, bien évidemment, et on comprend très bien que la situation, elle va pas se résoudre assez rapidement. Alors, comme on est toujours dans l'espace, il y a deux informations que je voulais évoquer dans cette émission. La première, on parlait de satellites. Alors, la transition, elle est un petit peu facile, bien évidemment, parce qu'on va pas parler d'armes, mais on va parler de satellites, parce qu'on s'est rendu compte que ces données que l'on récupère grâce aux satellites montrent que la végétation est en avance d'un mois en France. Dans le nord comme dans le sud du pays, on a bien vu que les températures atteignent des valeurs dignes d'avril, voire de mai, notamment dans le sud-est. Et c'est dans le sud-ouest, par contre, que l'anomalie chaude est la plus marquée. On a même eu des températures allant jusqu'à plus de 23 degrés en février, ce qui est assez perturbant. Cette première quinzaine, d'ailleurs, du mois de février sera probablement la plus chaude enregistrée depuis le début des relevés de température. Mais en dehors de cette grande douceur, il y a un autre paramètre météo qui a également donné lieu à de nombreux records ces dernières semaines. C'est bien sûr la pluie qui est tombée en grande quantité dans l'ouest du pays. Et donc, il n'en fallait pas plus pour que la végétation se croie déjà au printemps. Température douce, de la pluie, on est au printemps. Et donc, dans le sud-ouest, les vignes ont déjà stoppé leur repos végétatif. Et parce que normalement, ça se fait en mars, et bien là, c'est avancé. Il y a de nombreuses espèces qui laissent apparaître des bourgeons depuis déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant. Toutes ces observations ont donc été confirmées par des images de satellites, notamment le satellite de Copernicus. Il y a une carte qui a été éditée au niveau européen et qui montre bien l'état d'avancement de la végétation. Et nous ne sommes qu'au mois de février. L'activité de la photosynthèse de la végétation est donc complètement décalée en ce début d'année 2024 et cette repousse précoce risque d'être ravagée bien évidemment par des gelées qui peuvent être tardives à la fin du printemps. Et ça, bien sûr, ça peut être assez catastrophique. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir veiller et anticiper. Mais là, on est encore sur une illustration assez... concluante de ce réchauffement climatique et donc de cette végétation qui est en avance d'un mois en France. Ça, c'était au niveau de l'espace et je voulais vous parler de ce défi de Bertrand Piccard qui a été récemment interviewé au sujet de la transition énergétique et qui annonce un nouveau projet qui s'appelle Climate Impulse, un projet ambitieux qui vise à réaliser un tour du monde sans escale de 9 jours et sans émission de gaz à effet de serre. Justement, c'est l'idée d'avoir un avion propulsé à l'hydrogène vert. L'idée, c'est de démontrer que des solutions concrètes peuvent contribuer à un monde plus propre et plus efficient, dit-il. Alors, ce projet Climate Impulse se donne pour mission de développer, de promouvoir des technologies révolutionnaires pour l'industrie aéronautique et pour le secteur de la mobilité en général. Alors, il avait réalisé un premier tour du monde en ballon et plus récemment un tour du monde en avion solaire avec Solar Impulse, on s'en souvient. Eh bien, Bertrand Piccard, il ne va pas s'arrêter là, il s'attaque donc à un nouveau défi. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir associer le côté purement technologique, le côté aventure environnementale et bien sûr aussi le côté aventure humaine. Ce projet s'inscrit bien évidemment dans la lignée des précédentes explorations environnementales de cet explorateur suisse. Reste toutefois à construire cet avion qui tentera de faire le tour de l'équateur sans escale, ce qui est quand même un challenge assez important. Pour cela, Bertrand Piccard s'est associé à l'entreprise scientifique Syensqo, qui est le partenaire principal donc, de Climate Impulse. La construction de l'avion débutera cette année, nous dit-on, et on annonce un vol prévu en 2028 après 2 ans de tests. Donc, on a 2 ans pour construire l'avion, 2 ans pour le tester et donc ensuite eh bien, ce défi lancé avec ce vol prévu en 2028. Et plusieurs défis, en fait, attendent l'équipe de Bertrand Piccard dans la réalisation de cet avion totalement inédit. Bien sûr, la production d'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable, l'utilisation dans des piles à combustible de cet hydrogène pour alimenter les moteurs électriques de l'avion. Et le principal défi, en fait, ça consiste à maintenir l'hydrogène liquide. Et l'hydrogène liquide, l'hydrogène devient liquide quand il est à moins 253 degrés Celsius. C'est pas facile à atteindre moins 253 degrés Celsius. Il faut quand même avoir un dispositif assez conséquent et performant. Et ça pendant 9 jours. Parce que l'idée, c'est, on estime que le vol, pour faire le tour justement du monde, ça sera 9 jours. Donc il faut pendant 9 jours maintenir à moins 253 degrés Celsius cet hydrogène pour avoir de l'hydrogène liquide. Alors pour cela, on va pouvoir utiliser des matériaux composites, des technologies innovantes pour la fabrication de l'avion. De l'avion. Ces matériaux seront déterminants pour la fabrication de la structure de l'avion à hydrogène qui va aller du fuselage au niveau des ailes et en passant bien sûr par les réservoirs d'hydrogène. Parce qu'il faut avoir des matériaux qui permettent d'apporter une certaine légèreté et aussi eh bien, d'atteindre des propriétés mécaniques et des propriétés thermiques totalement nécessaires et indispensables, et permettre également une conception un peu plus compacte de l'avion. Donc il y a beaucoup de défis, beaucoup de contraintes à respecter. En ce qui concerne l'hydrogène vert, eh bien, les matériaux haute performance de l'entreprise seront essentiels pour conférer à l'avion une puissance et une efficacité exceptionnellement élevées, tout en permettant une conception plus compacte. C'est un vrai défi, un peu vertigineux, de ce tour du monde sans escale avec un avion à hydrogène vert. On suivra ça, bien évidemment, parce que je ne doute pas que Bertrand Piccard va se faire un plaisir de communiquer assez régulièrement sur ce sujet-là, bien sûr. Mais voilà, c'est un beau défi que l'on suivra dans cette émission Biotine. On écoute encore un petit titre et on va poursuivre la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission. À tout de suite. Cold World, c'était Algiers sur l'antenne de Graphite. Toujours situation tendue au salon de l'agriculture. J'ai pas plus d'informations, sauf que ça ne se calme pas encore pour l'instant. L'Europe veut se doter d'un vaisseau spatial. On va retourner quand même dans l'espace, qu'on voit très bien que c'est quand même aussi un peu l'actualité scientifique. Le Conseil de l'Agence spatiale européenne a lancé un appel d'offres pour développer un service de transport cargo vers la Station spatiale internationale dès 2028. À l'approche du vol inaugural de son nouveau lanceur Ariane 6. Alors c'est prévu entre le mois de juin et le mois de juillet prochain. Eh bien, ce nouveau programme de vaisseau spatial permet d'instaurer une compétition entre des entreprises européennes, à l'instar de ce que la NASA a réalisé avec SpaceX ou Blue Origin. Plusieurs compagnies devraient se mettre sur les rangs, telle l'entreprise franco-allemande qui s'appelle The Exploration Company ou la start-up allemande Rocket Factory Augsburg qui développe respectivement des vaisseaux qui s'appellent Nyx et Argo. Alors de son côté, Ariane Group postulera sans doute avec son projet Suzy. Le 25 octobre 2023, l'entreprise avait dévoilé l'avancement de la capsule en procédant sur son site des Mureaux dans le département des Yvelines à l'une des premières mises à feu du moteur d'un prototype. Nous nous intéressons à la réutilisation totale du vaisseau, c'est ce qu'explique Jost Van Toren du service programme futur d'Ariane Group. Il explique pour cela, il faut concevoir un concept robuste, une enveloppe polyvalente qui pourrait s'adapter au futur marché en fonction des besoins, dit-il. Alors l'engin disposerait d'une large capacité cargo pour délivrer du fret à une station spatiale, d'une trappe d'ouverture de grande dimension parce qu'on souhaite atteindre 2,50 m alors que pour l'instant on était uniquement à 80 cm. L'idée c'est de transporter bien sûr des éléments d'infrastructure spatiale. Il y aura également un bras articulé susceptible d'assurer une maintenance robotique ou pour permettre aussi la collecte de débris spatiaux. Nous avons optimisé une forme pour qu'elle puisse constituer le dernier étage d'Ariane 6 et une version plus petite qui pourrait être intégrée comme une charge utile sous la coiffe d'un lanceur. C'est ce que détaille Jost Van Toren. La première version donc, de cette famille Suzy devrait avoir au décollage une masse de 3 tonnes et un volume de 12 mètres cubes. Le modèle au-dessus, il affiche 7 tonnes pour 40 000 cubes quand même, c'est quand même assez conséquent. Un premier démonstrateur de 100 kg devrait être testé dans les mois à venir en vue bien sûr d'appréhender tous les phénomènes physiques de l'atterrissage lors des retours sur Terre. C'est une machine laboratoire autonome capable de différentes stratégies d'atterrissage. Nous allons apprendre à gagner progressivement de l'altitude et à effectuer des trajectoires, dans le communiqué d'Ariane Group. À terme, donc, Suzy pourrait évoluer en véhicule habité à destination des orbites basses, donc vers la Station spatiale internationale ou vers les futures stations orbitales privées. Mais également à destination de la Lune, vers notamment la future station Gateway en orbite autour de la Lune. Donc voilà, lancement d'un appel d'offres de l'Agence spatiale européenne pour créer un service de transport cargo à destination de la Station spatiale internationale et donc Ariane Group est sur les rangs et on suivra ça bien évidemment. En France, à Paris, Google a inauguré son nouveau centre de recherche et développement en intelligence artificielle. C'était la semaine dernière à Paris en présence de son PDG Sundar Pichai, du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de la secrétaire d'État chargée du numérique Marina Ferrari. Après une première implantation à Paris, c'était en 2018, et bien Google va rassembler plus de 300 chercheurs et ingénieurs contribuant au développement de ces produits. YouTube, bien sûr, le navigateur Chrome. Google n'est pas le seul grand nom de la tech à investir dans l'intelligence artificielle à Paris parce qu'il y avait déjà en 2015 Facebook qui avait ouvert son grand laboratoire FAIR pour Facebook Artificial Intelligence Research sous l'impulsion du chercheur français Yann LeCun qui est expert de Meta. Meta, c'est le groupe de Facebook. Pionnier du machine learning qui a fondé l'intelligence artificielle moderne. Donc c'est un petit peu le premier en dehors des États-Unis à mettre ça en place. Il y a également le japonais Fujitsu, le coréen Samsung, l'américain IBM qui ont eux aussi ouvert des centres de recherche à à Paris, en quelques années, nous sommes parvenus à créer plusieurs instituts de recherche interdisciplinaires, des chaires de recherche, doubler le nombre de diplômés en intelligence artificielle et augmenter de 500 le nombre de doctorants. C'est ce qu'explique le président français Emmanuel Macron. Il avait évoqué ça notamment à l'occasion du lancement du laboratoire QTI qui était porté notamment par Xavier Niel et Rodolphe Saadé et qui était également basé à Paris. Et donc là, ce laboratoire Google, doté d'un budget de 300 millions d'euros et dédié à la recherche en source ouverte, open source bien sûr, avec l'ambition de créer son propre modèle de langage. Et donc on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant et un peu proche de nous, donc ça va peut-être nous permettre de suivre un petit peu plus cette actualité au niveau de l'intelligence artificielle. Mais bon, voilà, il y a quand même quelque part un satisfait de voir que Paris devient de plus en plus la nouvelle capitale de l'intelligence artificielle. On passe tout à fait à autre chose. Il y a des fois des moments où les transitions ne s'imposent pas et je n'y arriverai pas aujourd'hui, notamment pour cette annonce de Santé publique France qui a donc fait ce communiqué il y a quelques jours et qui explique que la crise sanitaire a déclenché une décroissance de la santé mentale à l'échelle mondiale et en France. Une hausse des idées et des tentatives de suicide a été observée donc par Santé publique France. C'est une situation alarmante qui a renforcé la nécessité d'une surveillance accrue et d'interventions ciblées de prévention. En fait, depuis l'automne 2020, donc 2020, crise Covid, deux confinements en 2020, eh bien, on note une dégradation constante de la santé mentale. C'est marqué par une augmentation des urgences liées à des idées ou des tentatives de suicide, surtout chez les jeunes femmes. Bien que la crise sanitaire soit un facteur probable, on pense qu'il y a d'autres éléments comme les difficultés économiques, les enjeux environnementaux qui pourraient également avoir une influence sur cette tendance. Avant la pandémie, eh bien, les taux d'hospitalisation pour tentative de suicide étaient en baisse, mais la période 2020-2021 a inversé cette tendance, surtout donc, comme je vous l'ai dit, chez les jeunes filles et chez les femmes. Malgré cela, les taux de mortalité par suicide n'ont pas connu de hausse significative jusqu'en mars 2021. Cette situation révèle des disparités régionales assez notables, nous dit-on. Par exemple, en Corse, le taux d'hospitalisation était de 70 pour 100 000 habitants. Et par contre, dans les Hauts-de-France, on est à 268. Donc on voit vraiment qu'on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Des différences qui soulignent bien sûr l'importance d'une approche qui doit être adaptée à chaque région. La prévention du suicide s'impose donc comme une priorité de santé publique. Et Santé publique France rappelle les initiatives qui existent et notamment le numéro national de prévention du suicide qui est le 3114. Voilà des chiffres sans appel concernant la crise de santé mentale profonde chez les jeunes en France. Alors voilà, on considère qu'il y a plusieurs facteurs et que le facteur purement de la pandémie n'est pas le seul. C'est possible, mais comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, hein, depuis cette crise sanitaire, je vous ai dit qu'il va y avoir des études qui vont être menées et dont on aura les résultats plusieurs années après. C'est le cas, là, bien, on se rend bien compte qu'on est sur des informations qui commencent à nous parvenir parce qu'on commence à avoir le recul nécessaire pour pouvoir essayer d'avoir des données exploitables et tirer certaines conclusions, bien évidemment. Mais donc, voilà, on est quelque part là sur une alerte concernant cette santé mentale chez les jeunes, en France notamment, mais le constat semble être fait maintenant. Quelles sont les actions à mener, c'est un autre sujet, bien évidemment. On va écouter Björk sur l'antenne de Graphite et puis on se retrouvera pour terminer cette émission en direct, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Vous souhaitez réagir par SMS, n'hésitez pas. 06 95 065 026 06 95 065 026. Your mouth
floats above my bed at night, my own a private moon. Just because
C'était Björk avec Oral sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et c'est tant mieux, très bien pour vous. Je suivais l'actualité du Salon de l'agriculture qui est toujours pas inauguré. Nous dit-on, ça devient un peu compliqué cette histoire. Mais voilà, donc faudra vraiment se poser des questions quant à la transition du monde agricole, bien évidemment. Ça va être un vrai sujet qu'il faudra mettre sur la table, bien sûr, en dehors des aspects purement économique, bien sûr. On aura, je l'espère, l'occasion de faire un sujet sur sur cette thématique lors d'une prochaine émission de Biotine, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Il est 12h48. Pour vous tenir informés de l'actualité scientifique, vous avez pas mal de sites internet assez bien faits, assez intelligents, assez abordables aussi, parce qu'il faut quand même que l'actualité soit, qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse, la matière soit adaptée au public. Et donc, il y a des sites qui sont assez intéressants, notamment le site de Futuration, qui est quand même assez bien fait parce qu'il parle de beaucoup de sujets et traite l'information d'une façon assez synthétique et efficace. Et vous avez bien sûr toutes les revues de vulgarisation scientifique, Science et Vie, Science et Avenir, pour ne citer que ces deux-là. Vous avez Epsilon aussi, que je connais un petit peu moins, mais qui est aussi également intéressante. Et après, si vous êtes un petit peu plus, des adeptes du monde de l'aéronautique, de l'aérospatiale, bien sûr, vous avez Air et Cosmos, vous avez Ciel et Espace, vous avez beaucoup de revues de vulgarisation scientifique qui sont vraiment très bien faites. Et donc, dans ces revues, il y a des petites brèves comme ça qui abordent plein de sujets qui sont assez cocasses, assez originales, assez surprenantes aussi et assez inquiétantes. Par exemple, cette étude qui nous vient du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, qui nous explique que la probabilité qu'une étoile intergalactique passe à une distance trop proche du Soleil au cours du prochain milliard d'années est très faible, mais n'est pas nulle. C'est ce que montre une étude. Ce passage pourrait entraîner une collision entre Vénus et la Terre et pousser notre planète Terre en direction du Soleil. Les conclusions de cette étude, c'est qu'il y a 1% de risque qu'une étoile errante détruise la Terre. Bon, dans le prochain milliard d'années, on a encore le temps, quelque part, hein, on a le temps de mettre ça comme information sur notre agenda Outlook, mais c'est assez inquiétant. Il y a également le plus grand réacteur à fusion qui a été inauguré au Japon. Il mesure plus de 15 mètres de haut, plus de 13 mètres de large, une masse de 2600 tonnes. C'est le Tokamak, qui est désormais le plus grand réacteur expérimental à fusion nucléaire au monde. Il a été donc inauguré à l'Institut de fusion de Naka au Japon après une dizaine d'années de travaux. Et on estime un coût de ce projet à plus de 600 millions de dollars. Les gaz qui sont ionisés et qui sont extrêmement chauds seront produits justement par ce réacteur. Et il produira cela, ça va pas servir à produire de l'énergie, mais plutôt à étudier le comportement d'un plasma de 135 mètres cubes. C'est un record. On est plutôt là sur de l'expérimentation, sur de la recherche expérimentale, en fait, pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment on pourrait exploiter par la suite les résultats qu'on obtiendrait. Mais voilà, le plus grand réacteur à fusion a été inauguré au Japon et c'est assez inquiétant. Pendant ce temps-là, il y a des chercheurs suisses qui ont mis au point une intelligence artificielle qui est capable de cartographier l'épaisseur du manteau de la neige à partir d'images satellites. À quoi ça sert? Je ne sais pas trop. Mais ce qui est intéressant dans cette information, c'est qu'on a de plus en plus l'intervention, l'utilisation, l'exploitation de l'intelligence artificielle. Et on voit très bien que depuis quelques années, hein, vous nous suivez régulièrement, si vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, on voit très bien qu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle dans les travaux de recherche qui touchent tous les domaines d'ailleurs. Hein. Là, je prends le sujet qui est nous vient de Science et Avenir, et on est vraiment sur un sujet, j'allais dire, anecdotique, parce que calculer l'épaisseur de la neige et d'en faire une cartographie, bon, il y a sûrement des applications concrètes et très utiles, je n'en doute pas, mais on voit très bien que il y a aussi d'autres recherches un petit peu plus poussées, un petit peu plus fondamentales qui peuvent avoir aussi une incidence dans notre quotidien et dans notre avenir, et que l'intelligence artificielle est de plus en plus exploitée, bien évidemment. On a une équipe américaine qui publie une étude qui montre qu'il est possible d'utiliser des cellules cérébrales humaines comme des composants électronique spécialisée dans l'intelligence artificielle, bien évidemment. Les chercheurs ont en effet réussi à connecter des petits éléments cérébraux. Ce sont en fait des petits des neurones, hein, une masse de neurones qui ont été cultivés en laboratoire, et ils ont réussi à connecter donc ces neurones à de l'électronique classique pour y envoyer un signal d'entrée et en récupérer un signal de sortie. On a quelque part réussi à faire des puces informatiques avec des neurones humains. Ça nous vient de l'université de l'Indiana aux États-Unis, et vous avez dans les revues Sciences et Avenir et Sciences et Vie des images qui montrent un petit peu à quoi ça ressemble. C'est difficile de vous le traduire par la radio, mais c'est assez, c'est la conséquence qui est assez étonnante et intéressante, bien évidemment, de pouvoir construire ces puces informatiques avec des neurones humain, bien évidemment. D'autres informations qu'on a dans ces petites brèves avant de nous quitter, c'est le retour de la comète de Halley. Alors moi, la comète de Halley, ça me disait quelque chose. Et c'est la plus célèbre des comètes. Elle se trouvait à 5,3 milliards de kilomètres du Soleil en décembre. C'est le point le plus éloigné de son orbite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est de retour, la comète de Halley. C'est un petit astre de 15 kilomètres de long qui entame ainsi son long retour avec le Soleil, avec qui donc il a rendez-vous à l'été 2061. Bon, on a le temps. À la même époque, la comète sera normalement visible dans le ciel près de 76 ans après son passage. Le dernier passage de la comète remonte à 1986. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Je pense qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque, en 1986, de cette comète de Halley qui revient donc près de nous. Et on suivra. C'est assez intéressant. Je veux dire, elle a fait son chemin jusqu'au bout où elle devait aller et elle revient. C'est son orbite qui est faite ainsi. Elle revient vers nous. Et donc, voilà. Ben, on essaiera de suivre l'actualité en 2061. Je serai peut-être encore sur l'antenne de Graphite. Je ne sais pas dans quel état. On verra. Et 2061, on fera une émission spéciale Comète de Halley, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est des petites brèves comme ça qui sont assez intéressantes et que l'on pourra suivre un petit peu. Ça nous donne une matière un petit peu, utile et une opportunité de parler de science entre nous, un repas de famille, un repas d'amis, en réunion de travail professionnelle, allez savoir. Vous étalez votre science grâce à ces petites informations et grâce à Myotine sur l'antenne de Graphite. Il est presque 12h56. Je vais donc vous quitter, rendre l'antenne pour la suite des émissions sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur le 94.9 bande FM, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé, bien sûr, parce que vous avez bien évidemment la possibilité de pouvoir télécharger les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Vous suivez bien sûr aussi l'actualité de Graphite sur les réseaux sociaux afin de vous tenir informé de l'actualité de votre radio curieuse. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Graphite sur l'antenne de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vais y arriver. Il est temps pour moi d'aller déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.